Vous écoutez, on lit pour vous.
Réveiller la ferveur québécoise, 1 de 2, les rêves collectifs. Un texte de Gérard Bouchard paru le 1er février 2025 dans Le Devoir. Je l'ai déjà signalé à quelques reprises. Le Québec est une société qui ne rêve plus. C'est une rupture avec notre passé, notre société ayant toujours poursuivi de grands rêves mobilisateurs. Ce fut le cas dans la sphère politique au cours des premières décennies du 19e siècle avec le mouvement patriote. Lui a succédé pendant un siècle, cette fois dans la sphère culturelle, l'idéal de la survivance. Il s'agissait de sauvegarder le caractère catholique et français de notre société contre l'influence américaine et les « mauvaises idées » venues d'Europe. On voulait aussi édifier, idéalement dans la ruralité, un christianisme modèle. Vint ensuite la Révolution tranquille, un épisode de rêve intense, mais aussi d'importantes réalisations dont l'héritage nous accompagne encore aujourd'hui, laïcité, liberté d'expression, politique sociale, etc. Enfin, dans le prolongement de l'effervescence des années 1960, nous avons vécu la chevauchée souverainiste. Or, il y a 25 ou 30 ans, nous avons cessé de rêver. Nous sommes peut-être en transition. Ce serait supposer que nous savons où nous allons, qu'un grand projet s'apprête à nous mobiliser. Ce n'est pas le cas. La lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, est une préoccupation généralisée, mais elle n'arrive pas à provoquer un vigoureux mouvement collectif qui se traduise dans la sphère politique. L'idée de souveraineté refait surface, mais, pour l'instant, elle ne soulève pas les foules et l'espoir qu'elle porte se heurte à de très douloureux souvenirs. Cette situation n'est pas saine. Nous sommes une petite nation pénétrée depuis longtemps du sentiment de sa fragilité. Il est salutaire de nous sentir tous engagés dans une grande entreprise qui nous fortifie, qui crée une tension positive et constitue une source d'énergie. Une autre raison, c'est que le monde continue de bouger autour de nous. Nous ne voulons pas être en reste. Enfin, il est difficile de gouverner d'une façon cohérente sans avoir une idée claire de nos finalités. Le gouvernement Legault en offre une illustration éloquente. Notre premier ministre, surtout, agit d'une façon brouillonne. Il gouverne à vue, improvise, s'emploie parfois à éteindre des feux qu'il a lui-même allumés. Cependant, sur le plan des valeurs auxquelles nous souscrivons, il n'y a pas lieu de parler de crise. Nous n'en sommes pas là. Pensons à la démocratie, à la laïcité, à l'égalité homme-femme, au pluralisme et autres. La société civile reste attachée à ses valeurs. Deux facteurs font défaut. C'est d'abord le manque de ferveur. La passion qui a animé la Révolution tranquille puis le mouvement souverainiste n'est plus là. C'est aussi que le soutien aux valeurs s'est segmenté, chacune suivant un cheminement relativement autonome pris en charge par différents acteurs et actrices. À cet égard, on peut tirer une importante leçon de la Révolution tranquille. L'une de ses caractéristiques principales tient dans la convergence qui s'était établie entre les directions d'action, sociale, politique, économique, culturelle, si bien qu'une avancée dans l'une se répercutait dans les autres, ce qui favorisait le mouvement de l'ensemble. En d'autres mots, la pluralité des trames se fondait dans une action commune qui amplifiait leur impact en les conjuguant. On peut y voir une explication de l'ampleur des changements réalisés dans un si court laps de temps. On soupçonne aussi que ce facteur explique la faiblesse des résistances qui leur furent opposées. Suivant la même logique, il existait une ouverture, sinon une polyvalence dans les objectifs des acteurs. Le syndicalisme ne plaidait pas que pour les intérêts des travailleurs. Les jeunes voyaient beaucoup plus loin que leur avenir professionnel. Les militants religieux n'en avaient pas que pour la sauvegarde de la foi. Le milieu des affaires était ouvert à la modernisation de notre société, notamment à la démocratisation de l'éducation. À peu près tout le monde appuyait la laïcisation, l'essor du féminisme s'insérait dans la lutte pour le relèvement social, contre l'exploitation et pour la défense des droits, etc. On n'observe pas un phénomène semblable aujourd'hui. J'ai présenté séparément ces deux facteurs, manque de ferveur et manque de convergence dans les finalités et modes d'action. Mais on voit bien aujourd'hui qu'ils sont liés de près. L'inertie et la tiédeur dans la sphère politique reproduisent la segmentation dans l'action collective. En quête d'un nouveau rêve collectif. Un rêve collectif tient une société sur le qui-vive. Il la fait progresser, il suscite l'engagement des citoyens et il donne aux jeunes un matériau propre à nourrir leur imaginaire, à concevoir un idéal, à prendre parti dans la vie. Mais comment engendrer le rêve? Dans le passé, nos rêves étaient solidement ancrés dans la conjoncture, dans de puissants ressorts. Il y avait une menace à repousser, un déséquilibre nocif à redresser, une situation de grande injustice à éliminer. Pour les patriotes, le ressort était de libérer la société du colonialisme. Pour les chantres de la survivance, c'était de contrer la dissolution de la nation en l'ancrant dans le religieux et la tradition. Pour les militants de la Révolution tranquille, c'était de sortir le Québec d'une situation de sous-développement et de retard qui faisait honte, de le lancer à la poursuite d'autres idéaux accordés au monde qui se refaisait. Pour les souverainistes, c'était de donner à notre société les pouvoirs nécessaires à son plein développement. Quel pourrait être le ressort aujourd'hui? Après une longue période de changement, d'ajustement et de progrès, de quoi souffrons-nous principalement? Il n'y a pas de grande fracture à réparer comparable à l'ancien colonialisme ou à l'urgence de la survivance. Paradoxalement, en guise de ressort, nous souffrons surtout d'un marasme du sentiment général que, pour paraphraser une formule bien connue, ça ne va pas bien. Dans ces conditions, comment susciter de grandes initiatives, de nouveaux dynamismes et les mettre en convergence? Quelle est l'enseigne ou l'horizon qui pourrait les chapeauter et nous mobiliser, toute génération et toute profession confondue? C'était « Réveiller la ferveur québécoise », 1 de 2, Les rêves collectifs, un texte de Gérard Bouchard paru le 1er février 2025 dans Le Devoir. Réveiller la ferveur québécoise, 2 de 2, Quelque chose comme un grand peuple, un texte de Gérard Bouchard paru le 8 février 2025 dans Le Devoir. Voici un plaidoyer candide qui fait appel aux élans de l'esprit et du cœur. Il suppose que plusieurs d'entre nous demeurent ouverts à l'engagement, au dépassement. Le retour à la nation. Jusque dans les années 1990, l'État-nation était le lieu principal du rêve et de l'action. Avec le néolibéralisme et la mondialisation culturelle, ce lieu s'est déplacé pour s'étendre à la planète. C'était une utopie à deux volets, économique et culturel. Elle ne concernait pas précisément le Québec, mais il y était inclus, comme bien d'autres et un peu malgré lui. Le premier volet a échoué. Il devait placer les États dans l'interdépendance, il les a mis dans la dépendance. Il ferait lever tous les bateaux, il a engendré une caste d'ultra-riches qui intimide les nations. Il a produit de nouvelles formes de criminalité, des migrations de la misère, des paradis fiscaux et un nouvel esclavage dans les pays pauvres. Il a aidé à l'émergence d'États autoritaires et corrompus. Le dossier de la mondialisation culturelle est plus complexe. Elle a certes enrichi les cultures nationales en favorisant une ample diffusion de l'information, du savoir et des idées. Mais elle a aussi charrié des scories, comme les réseaux sociaux et une culture infantilisante. elle a contribué à répandre la désinformation et la polarisation. En ce sens, elle a rétréci les esprits. Dans un cas comme dans l'autre, on est amené à revenir à la nation. En quête d'un ressort. Dans le premier volet de cette réflexion, paru dans l'édition du Devoir des 1er et 2 février, j'ai parlé d'une grande infortune qui peut agir comme ressort à une nouvelle ferveur, une infortune comme celle que nous avons déjà connue. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui contraints d'effectuer un grand rattrapage comme dans les années 1960. Nous ne sommes pas non plus menacés d'extinction comme au 19e siècle. Notre société souffre de nombreuses carences, mais elle n'est ni infirme ni démunie. C'est une société instruite qui a des ressources et qui a fait sa marque dans des domaines clés. Ce qui pourrait tenir lieu de ressort, c'est le marasme dans lequel nous nous trouvons. Mais il n'a pas la même portée que ceux déjà évoqués. Il faut lui ajouter des motivations qui relèvent non pas d'une défaillance structurelle, mais d'un choix collectif. On pense à une autre image de nous-mêmes, à un sentiment de fidélité et de dignité, d'une dette envers notre passé et notre avenir. Donnons raison à René Lévesque, nous sommes une petite nation, mais aussi un grand peuple. Tablant sur nos avantages, nos ressources, nos talents, le nouveau rêve devrait inviter au dépassement, à l'exaltation de la réussite, à nous projeter vers l'avant en vainqueur. Il invite à un élan collectif qui engendrerait une société créatrice à l'avant-garde avec le goût du risque. Dans le cours de notre histoire, nous avons longtemps subi la pauvreté, le mépris, l'humiliation. Nous avons souvent pratiqué la patience, la résignation, la courbette, l'art de la défaite. Essayons donc l'ambition, l'exaltation, l'audace, la soif de vaincre, comme certains des nôtres l'ont fait déjà et comme les années 1960 en ont donné l'exemple. Offrons-nous l'ivresse de rouler dans le peloton de tête. Le pari de la grandeur. Pour en arriver à quoi? À assigner à la petite nation une vocation de grandeur, à se constituer en une société avancée, originale, qui tend toutes ses énergies et apprend à se gouverner avec cohérence et sagesse à la poursuite d'un grand objectif qui élève. À apprivoiser des maux qui nous semblaient hors d'atteinte, comme les États-Unis qui, à leur naissance, parlaient de la poursuite du bonheur, ou comme la France qui, en 1789, se destinait au culte de la fraternité. Je me souviens, c'est très bien comme devise, mais pourquoi ne pas ajouter « j'ose, j'imagine, je crée » Ce ne serait pas mal non plus. Cela ne nous tenterait pas d'ériger une société qui se signalerait par son capital de vertu civique, qui mettrait un soin particulier à réduire la pauvreté tout en excellant en affaires, avoir dans ses minorités et ses immigrants des alliés plutôt que des suspects, à secouer la lassitude pour retrouver la chaleur de la solidarité dans l'action, à communiquer aux jeunes le goût d'un avenir, à les inviter à sortir de leur moi. Nous avons hérité de notre passé ancien ou récent un corpus de valeurs auxquelles nous sommes restés fidèles. Égalité sociale, démocratie, pluralisme, solidarité, attachement à la nation, entre autres. Nous sommes tentés de les tenir pour acquises alors qu'il faudrait les raviver. On pourrait essayer de les souder dans un grand effort conjoint, de les réunir dans une convergence sous une enceinte qui les résume et les relance, qui leur donne une nouvelle vie. Nous avons besoin d'un horizon qui pourrait conjuguer nos héritages et nos acquis, remettre de la ferveur dans nos vies. Un choix. Je sais, il y a beaucoup de candeur dans cette proposition. Mais n'est-ce pas ce dont nous avons besoin en ce moment? Une dose de rêve, d'utopie, de la lumière dans notre grisaille, n'est-ce pas toujours dans un idéal profondément intériorisé et ardemment poursuivi qu'une société parvient à réaliser quelque chose de bien? L'histoire ne promet rien pour les peuples qui se contentent de peu. On aura peut-être deviné que ce texte comporte une dimension personnelle. Né, comme un très grand nombre de Québécois, dans un milieu social peu favorisé, apparemment fermé aux grandes destinées collectives, j'ai mis du temps à comprendre que les origines ne dictent pas le parcours d'une société. Pour les nations comme pour les personnes, la vie est un choix. C'est ce que notre passé nous enseigne. C'était « Réveiller la ferveur québécoise, 2-2-2, quelque chose comme un grand peuple », un texte de Gérard Bouchard paru le 8 février 2025 dans Le Devoir.
Aidez-nous à vous aider, disent les pharmaciens, un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 3 mars 2024 dans La Presse. Les pharmaciens québécois ont prescrit plus de 1,1 million de médicaments en 2024, une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. Ils ont prolongé environ 1,7 million d'ordonnances, une hausse de près de 20 %. Ils demandent aux Québécois de les aider à les aider. L'Ordre des pharmaciens du Québec, OPQ, lance ce lundi une campagne de sensibilisation auprès de la population en collaboration avec tous les acteurs du monde de la pharmacie. Il invite les gens à s'y prendre à l'avance lorsqu'ils souhaitent obtenir un service. Par exemple, renouveler leurs médicaments en ligne ou par téléphone, idéalement 48 heures avant leur passage. Si on veut être capable d'utiliser le plein potentiel des pharmaciens, ce qu'on demande aux gens, c'est d'adopter certains comportements qui peuvent paraître anodins, mais qui, au bout de la ligne, ont un impact important dans les opérations quotidiennes, dit le président de l'OPQ, Jean-François Desgagnés. L'ère de la pharmacie express, où l'on obtenait ses médicaments 5 minutes après avoir remis les ordonnances aux pharmaciens, est bel et bien révolue. Maintenant, plus ça va, plus on a besoin de temps, constate le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin. Il explique que le champ de pratique des pharmaciens s'est élargi et qu'ils doivent composer avec des traitements plus complexes et des ruptures de stock. Les pharmaciens sont donc souvent appelés à changer des doses ou des médicaments, indique-t-il. Selon la Régie de l'assurance maladie du Québec, les pharmaciens ont effectué environ 1 million de modifications de traitement en 2024, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à l'année précédente. Avec le projet de loi 67, on va avoir encore plus d'actes à faire, rappelle Benoît Morin, mais on n'a pas plus de bras. Les pharmacies font face à une pénurie de personnel. Elles doivent mieux s'organiser, selon Benoît Morin. Mais les patients peuvent aider dans la planification en offrant aux pharmaciens un délai pour récupérer leurs médications. 5 conseils de l'OPQ. 5 conseils sont donnés aux patients dans la campagne pilotée par l'OPQ. On recommande notamment de transmettre ses ordonnances dès que possible et de connaître les changements apportés à sa médication après un séjour hospitalier. Les sorties d'hôpital, on a besoin d'un délai pour préparer les prescriptions, confirme Benoît Morin. Impossible de traiter 32 ordonnances en 5 minutes lorsqu'un patient a reçu son congé médical. Les proches aidants ont tout intérêt à remettre les ordonnances de leur mère ou de leur père, par exemple, dès qu'ils les ont en main et qu'un retour à la maison est prévu. Des fois, le vendredi soir, on a 7 ou 8 cas de sortie d'hôpital, en même temps, dans une pharmacie. Ça vient congestionner le service. Autre conseil, s'informer des services offerts dans sa pharmacie en consultant le site web de cette dernière. Selon Benoît Morin, des patients demandent parfois aux pharmaciens s'ils peuvent prescrire un scan ou remplir un rapport de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, CNESST. Réponse : non. Ils peuvent toutefois prescrire des médicaments pour des problèmes de santé mineurs, comme l'infection urinaire chez la femme, le zona et les brûlures d'estomac, entre autres. Je peux represcrire des tests de laboratoire qui sont en lien avec ma pratique, ajoute Benoît Morin. Je ne peux pas faire des formules sanguines complètes parce que le patient est dû pour son rendez-vous chez le médecin. C'était « Aidez-nous à vous aider, disent les pharmaciens », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 mars 2024 dans la presse.
Quand nos désirs font désordre, ne rasons plus les murs. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 23 février 2025 dans le magazine Fugue. Dans la période trouble que nous vivons et au regard du recul auquel nous assistons pour les droits des communautés LGBTQ+, se tourner vers l'histoire de nos luttes peut être une source d'espoir et surtout un sursaut pour réagir. Avec « Quand nos désirs font désordre » de l'historien Mathias Quéré sur l'histoire du mouvement homosexuel en France, 1974-1986, c'est une piqûre de rappel que nos désirs et notre parole doivent s'affirmer sans obtenir l'approbation de la majorité des institutions. Ce qui devrait nous faire réfléchir sur nos stratégies actuelles trop souvent axées sur les compromis que sur l'affirmation de ce que nous sommes. Il serait trop long de détailler cette longue marche des affirmations homosexuelles en France et qui prendra fin avec l'arrivée du sida. Soulignons simplement les difficiles relations avec les partis politiques plus progressistes à l'époque en France, les relations parfois conflictuelles avec le mouvement lesbien, lui-même aux prises avec les groupes féministes qui émergeaient dans le même temps, les divergences à l'intérieur même des groupes homosexuels de l'époque ou encore les oppositions entre Paris et la province. Une histoire qui reste à découvrir selon Mathias Quéré et dont on pourrait tirer quelques enseignements. Comment est venue l'idée de cette recherche sur la naissance du mouvement gay et lesbien en France? Mathias Quéré. Cela remonte à loin. En 2009, j'étais étudiant en Bretagne et on bloquait une université pour protester contre un projet du gouvernement qui voulait réformer l'accès aux universités. Pendant cette occupation de l'université, une amie m'a remis un bouquin dont le titre est « Rapport contre la normalité du FHAR, Front homosexuel d'action révolutionnaire », publié en 1971. Et ça a été pour moi une révélation de lire que 50 ans plus tôt, il y avait eu des homosexuels qui s'affichaient comme révolutionnaires, qui avaient décidé de sortir collectivement du placard. Cela m'a bouleversé et je me suis mis à chercher dans les bibliothèques, les librairies, des documents, des livres, etc., qui m'en apprendraient plus. Et malheureusement, je n'ai presque rien trouvé. Mais le désir d'en savoir plus était là. Quelques années plus tard, j'arrive à Toulouse. Je décide de reprendre des études et tout de suite je commence mes recherches pour en savoir plus sur ces groupes, sur cette période de l'histoire. Il fallait aussi retrouver des témoins de cette époque, et l'on sait que beaucoup sont décédés du sida. Cela n'a pas été facile au début, mais heureusement, j'ai rencontré Christian Deleuze, qui avait été membre du GLH, Groupe de libération homosexuelle, de Marseille, et lui m'a donné le nom de personne à contacter, et donc j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui avaient participé à ce grand mouvement de libération, mais cela a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette recherche? Entre autres, c'est de voir à l'époque qu'il y avait un très grand nombre de groupes dans beaucoup de villes de France. On pense à de grandes villes, Marseille, Brest, Mulhouse, Tours, et même dans des villes moins importantes. Il y avait plus d'une vingtaine de GLH. Tout ne venait pas de Paris et il y avait parfois des discussions houleuses puisque le QAR, Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui se voulait entre autres la vitrine des GLH avec son mensuel Homophonie, était basé à Paris. Mais l'existence de ces nombreux groupes à travers la France est une des spécificités du mouvement homosexuel et lesbien de cette époque. Bien sûr, ta recherche s'arrête aux frontières de la France. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une influence liée à ce qui se passait aux États-Unis? Je pense entre autres aux événements de Stonewall. Pas vraiment. Bien sûr, les militants militantes de l'époque connaissaient Stonewall ou encore regardaient ce qui se passait à l'étranger. Mais il y a très peu de références aux États-Unis dans les premiers textes des GLH. Les États-Unis étaient considérés comme impérialistes pour le mouvement homosexuel français qui s'inscrivait dans une démarche révolutionnaire, trotskiste, entre autres. Je crois que Stonewall symbolise en fait le début d'une inexorable marche vers l'émancipation, alors que l'on s'en rend compte, il y a eu beaucoup d'à-coups et que cette émancipation est toujours en devenir. L'influence des États-Unis se fera surtout à partir des années 80, au moment où apparaissent de plus en plus de bars, de boîtes, où il y a aussi une privatisation qui s'opère avec la création de magazines qui ne sont plus issus de groupes militants. Quelle est pour toi l'importance de connaître cette histoire? Tout d'abord, parce que nous assistons à une montée des discours d'extrême droite en Europe, aux États-Unis, et que l'histoire peut nous aider à mieux réagir. De plus, c'est le désir de la transmission de cette histoire qui a été marqué très vite par la disparition de toute une génération par le sida. J'avais surtout envie de rappeler des discours, des pratiques, d'ouvrir des imaginaires que l'on connaît moins, de les remettre au goût du jour, de se les réapproprier d'une certaine façon parce que c'est notre histoire. Info. Quand nos désirs font désordre, une histoire du mouvement homosexuel en France, 1974-1986, de Mathias Quéré, Luxe éditeur. En 2019, Mathias Quéré publiait aux éditions Time Party « Qui sème le vent récolte la tapette », une histoire des groupes de libération homosexuelle, GLH, en France, de 1974 à 1979. C'était « Quand nos désirs font désordre, ne rasons plus les murs ». Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 23 février 2025 dans le magazine Fugue.